Bonjour et bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple, où on essaye de simplifier les termes techniques, ce qui vous complique souvent la vie. On essaye de parler d'usage, de besoins, d'envie, de notre passion pour la marque, ses produits et ses services dans son histoire. Aujourd'hui, grande émission avec, évidemment, comme d'habitude, Audrey Coulot, autrice, youtubeuse Apple. Bonjour, j'ai dit autrice, mais j'ai oublié formatrice. Bonjour Audrey.
Salut Matt.
Ça va bien?
Oui, ça va et toi?
Ben, ça va bien, je sais que je vous presse tous, et quand je dis tous, c'est parce que je parle aussi évidemment de notre invité qui en est à son quatrième passage, je pense, dans l'émission. Bonjour Guillaume Jette.
Salut, j'espère qu'à la fin je gagne un truc pour le cinquième passage quand même.
Oui, oui, ben en fait...
Un bon de réduction, un nouveau Mac gratos, enfin je sais pas, mais tout ça va se monnayer.
Je te promets que quand tu viendras au Québec, je vais te payer de la tire d'érable. Est-ce que ça te va?
Ah, écoute, je sais pas ce que c'est, mais ça me plaît, déjà.
Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui, émission spéciale, émission dont, pour laquelle on va parler de la keynote. Il y a eu une keynote qui s'appelle Peak Performance, et on a eu, en fait, Audrey a eu l'idée... et préparer toute l'émission, merci Audrey, de faire cette émission spéciale sur la keynote. Alors, on va commencer par un tour de roue. Avant de commencer, vos avis généraux de la présentation, à tout seigneur, tout honneur, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Guillaume, ton avis général par rapport à cette présentation, toi?
C'était une bonne présentation, rapide, ramassée, puisqu'elle durait à peine une heure, à peine plus en fait, donc très très rythme assez intense. Des choses qu'on attendait très clairement et d'autres choses dont on a un peu rien à faire et puis des choses qui sont carrément intéressantes, donc ouais, c'était un bon équilibre. Et puis moi, dès qu'on parle de Mac, je suis content de Mac et pas de maths, mais même quand on parle de maths, je suis content.
Audrey, ton avis par rapport à cette présentation?
Écoute, c'était en effet très condensé, hein, ils vont super super vite. J'ai trouvé qu'elle était sérieuse, cette conférence. Il n'y a pas eu trop de blagues ou ouais, de choses humoristiques, certainement liées au contexte actuel. Non, très bien. Et franchement, oui, des très beaux produits et j'ai hâte qu'on en parle. Et toi?
Ouais, ça faisait longtemps, mais j'ai pas assisté en direct à cette conférence. J'ai regardé les produits à la fin et je me suis dit, j'ai pas vraiment manqué grand chose. Et on va en discuter ensemble et c'est ça qui est intéressant. Mais d'ores et déjà, je pense qu'on pourrait souligner l'apparition de Tim Cook avec une référence sur l'Ukraine, avec son gilet bleu et sa montre avec son bracelet jaune. Petit clin d'œil sympathique. À propos, le minimum requis, Guillaume, qu'est-ce que t'en penses, toi, rapidement?
C'est-à-dire par rapport à au bracelet, c'est ça?
Ouais, par rapport au petit clin d'œil pour l'Ukraine.
C'est compliqué. C'est toujours compliqué en fait sur ce genre d'événement. Est-ce que tu es là pour effectivement faire un effet? Enfin, c'est compliqué. Est-ce que c'est un événement qui doit être politisé ou pas en fait? C'est en question. Et je pense que pour Apple, de toute façon, faut pas oublier que ces événements-là sont enregistrés, en plus sont préparés très longtemps en amont. Donc, à mon avis, si ça se trouve, ça a déjà été enregistré il y a plus d'un mois. La situation n'était pas ce qu'elle est. Bon, maintenant, cela dit, effectivement, le petit bracelet peut faire croire que c'était fait plus récemment que ça. Et du coup, c'est pas évident en fait d'avoir un avis tellement clair sur la question. Je pense peut-être qu'Apple aurait pu faire plus, mais après, comme toute entreprise, c'est délicat. Enfin, c'est délicat de se dire de parce qu'en parler, c'est politiser l'événement, en fait, donc c'est compliqué.
Tout à fait.
Mais il y a quand même Tim Cook qui avait tweeté en montrant son soutien à l'Ukraine, et ils ont quand même dit qu'ils allaient financer l'aide humanitaire et tout ça, donc ils sont quand même présents dans ce débat. Mais en effet, je pense que la keynote, c'était pas du tout l'endroit pour en parler. Il y a eu le petit clin d'œil que tout le monde a remarqué, puisqu'on en parle aujourd'hui, donc je pense que c'était suffisant pour faire passer le message, quoi.
Et puis il y a eu l'autre clin d'œil aussi qui a été assez remarqué, c'est le fait qu'il y a eu énormément de femmes qui présentaient en fait, et c'était la journée internationale des droits des femmes le même jour, et effectivement c'était assez intéressant de voir qu'Apple a mis en avant énormément de femmes par rapport à d'habitude, ça c'était plutôt bien aussi.
Ça fait plaisir.
Ça fait très plaisir. Bon après ça fait partie d'un mouvement qu'ils font depuis plusieurs années, mais là c'était particulièrement visible en tout cas, donc c'est bien.
Bon, on va aller tout de suite dans ce qui nous intéresse, nous, les amateurs de la marque, au niveau grand public, iPhone 13, iPhone 13 Pro.
Ben voilà, tout est dit, il n'y avait pas besoin de faire plus. On s'arrêtait là, la conf était prête, était finie et c'était bon, quoi. Je veux dire, insta-bye, et puis c'est tout.
J'allais dire, avec un clin d'œil pour... je sais pas si je vais la faire. Je vais la faire quand même, c'est pas grave, je me ferai critiquer. Avec un clin d'œil sur la guerre, parce que moi, je trouve vraiment pas très beau, la couleur. Mais un iPhone 13 et un 13 Pro vert, couleur militaire kaki. Je prends les commentaires. Moi, je le trouve affreux. Audrey?
Je préférais le 12 de l'an dernier, violet.
Bon.
Mais les goûts et les couleurs, après...
Alors, c'est un vert alpin, faut quand même savoir. Après, comme souvent, les iPhones, en fait, faut les tenir en main pour vraiment voir ce que ça donne. C'est le truc, tu te dis au départ, ah, c'est pas terrible en photo. Moi, je sais que j'avais pris le 11, par exemple, j'ai pris la version qui était un vert de gris. Au départ, je disais, bref. Puis en fait, une fois que tu l'as en main, tu regardes, tu fais, ah, quand même, c'est vachement joli, quoi. Donc là, pour le coup, c'est un vert plus prononcé, effectivement, que ce qu'ils avaient fait sur l'iPhone 11. Mais ça plaît ou ça plaît pas, mais après c'est bien qu'il y ait des couleurs qui divisent un peu aussi, je veux dire c'est comme les iMac, Apple fait des couleurs des fois tranchées, ça plaît pas forcément, mais il en faut pour tous les goûts, donc c'est bien qu'il y ait un choix en plus, voilà.
Puis d'après vous, c'est quoi votre analyse, le fait d'arriver, ça fait deux keynotes qui nous font ça, où ils arrivent avec un iPhone déjà sorti mais d'une autre couleur, comme si c'était un événement, comme si c'est... Pourquoi ils en sont rendus à faire ça
C'est du marketing, enfin, c'est ça permet marketing. De relancer les ventes.
Voilà. Ça te fait un communiqué de presse, et puis voilà, c'est tout. Ça sert pas forcément beaucoup plus que ça. Et puis après, c'est aussi... Alors après, il peut aussi y avoir des problèmes sur le fait que, quand tu sortes plusieurs produits comme ça d'un coup, tu peux avoir des problèmes de chimie ou de... qui font que peut-être que la couleur que tu veux faire ne correspond pas exactement à ce que tu veux faire, que t'es obligé de retarder un petit peu. Peut-être ça aussi, hein, tout simplement. Voilà, ils étaient pas encore la couleur prête parce que, les process étaient pas prêts derrière, au niveau industriel. Et puis une fois qu'ils ont pu le faire, ils l'ont fait. Je veux dire, c'est comme les premiers iMac. Hein. Pourquoi les premiers iMac n'étaient pas entièrement transparents? Parce que les premières versions, ils n'avaient pas forcément la techno pour le faire. Et puis, ils ont amélioré les processus ensuite. Et puis voilà. Jusqu'à faire des iMac translucides. Ça, c'est le vieux qui parle. Très vieux.
Bon, alors, je pense qu'il y a un iPhone 13 de couleur verte qui va peut-être se vendre dans le trio. Mais pas plus que ça. Je sens pas beaucoup d'engouement. Mais par contre, je vais peut-être soulever des folies, des cris avec ce iPhone SE 3 avec la puce A15 bionique. Mais qui garde un design qui date un peu. On a été surpris. Moi, j'étais très surpris de voir un SE 3 avec la même coque que le iPhone 6. Est-ce que je suis tout seul à être surpris qu'on rentabilise encore plus longtemps ce vieux design?
Guillaume, vas-y si tu veux. Je dirai après.
Je sais pas trop. En fait, Après, moi, je trouve pas que ce soit un design vieillot, de toute façon. Donc, c'est un design qui est passe-partout, mais ça reste un design efficace. Ça permet d'avoir un segment entrée de gamme. Bon, entrée de gamme à prix Apple, hein, de toute façon, comme d'habitude. Hein, voilà, ça reste quand même plus cher. Mais par contre, avec derrière des technologies qui, elles, peuvent durer très longtemps. Donc, voilà. Moi, par contre, ce qui me surprend, c'est que dans les couleurs des iPhones, tu as un iPhone Product Red, donc qui sert à financer aujourd'hui la lutte contre le Covid-19, qui est proposé sur l'iPhone SE, et que ce modèle Red n'existe pas sur les iPhones haut de gamme, ce que je trouve assez surprenant. Mais voilà, après, ouais, c'est ce qu'il faut voir surtout, c'est que l'intérieur, lui, par contre, il est déchiré grave, puisqu'en fait, aujourd'hui, t'as quand même une technologie qui est la même, je crois, que sur les iPhone Pro, voilà, même type de processeur, peut-être un peu moins puissant, mais enfin, largement assez puissant pour un appareil d'entrée de gamme, je trouve ça plutôt intéressant.
Ouais, et puis on garde une pérennité du produit, on sait qu'on achète un iPhone, c'est pour 5-6 ans, on est correct avec ce processeur-là, meilleur écran, plus résistant, bref. Il coche toutes les cases pour moi ce iPhone, sauf pour le design qui pêche un peu. Audrey, tu l'aimes encore ce vieux design?
En fait, je pense surtout qu'Apple cible une clientèle habituée aux iPhones. Tu vois, les clients qui doivent renouveler leur iPhone 6S, 7, 8 ou SE de première génération. Sur la page du produit, ils disent bien le bouton Touch ID que vous aimez tant. Donc, il y a vraiment des gens qui aiment Touch ID à défaut de Face ID. Hein, ça peut, c'est tout à fait compréhensible. Et puis, je pense que c'est aussi un produit rassurant pour les gens parce que justement, c'est un design qui a fait ses preuves. C'est des iPhone 7 qui tournent encore aujourd'hui, qui sont encore mis à jour. Enfin, pour moi, c'est des appareils que les gens gardent longtemps. Et donc, c'est cette clientèle-là qu'ils veulent cibler avec un prix d'entrée de gamme. Alors, bien sûr, c'est 529 euros, mais Pour un iPhone, je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Moi, il y a des technos qui me manqueraient aujourd'hui, surtout Face ID et peut-être aussi l'écran OLED que j'ai sur le 12 mini aujourd'hui. Mais au niveau encombrement, au niveau tarif, au niveau côté pratique et tout, moi, je trouve que c'est un iPhone qui a toute sa place et qui, même en 2022, même si, en effet, le design, on le connaît depuis super longtemps, a bien raison d'être là. Voilà.
Après, ce qui est surprenant, c'est vrai qu'ils auraient pu commencer à pousser le nouveau design de Touch ID sur la tranche, comme ils l'ont fait pour l'iPad. Ouais. Ça aurait été un point peut-être intéressant. S'ils voulaient vraiment garder Touch ID. Alors, j'aime bien parce que sur la page de présentation de l'iPhone SE, du coup, t'as le bouton principal iconique. Donc, c'est vraiment l'argument marketing. Mais en même temps, c'est vrai, c'est un design iconique, voilà. Mais en même temps, voilà, il y a des gens qui préfèrent Touch ID plutôt que Face ID. Et puis, ça fait un appareil aussi intéressant pour l'entreprise puisque ça leur permet d'avoir un appareil qui, quand même, a aussi de la 5G, on a oublié de signaler, mais voilà, on commence à attaquer la 5G sur l'entrée de gamme chez Apple. Même si l'entrée de gamme chez Apple, c'est plutôt du milieu de gamme pour beaucoup d'autres, hein, mais voilà. Mais moi, je connais des entreprises qui sont sûrement très intéressées pour basculer sur des nouveaux téléphones, qui n'ont pas forcément envie d'investir non plus sur un téléphone avec des fonctionnalités très avancées. Pour elles, ça leur permet d'avoir un tarif d'entrée de gamme qui est intéressant. Même si elles prennent un abonnement derrière, ça va quand même réduire aussi un peu le tarif. Donc c'est pas inintéressant. C'est juste qu'après, effectivement, si tu es branché par la technologie, tu te dis ok, il est un peu has-been sur certains points, mais ça reste un appareil rapide, puissant, avec quelques petits défauts.
Et
5G, voilà, avec une meilleure autonomie. Donc c'est pas mal. Ça reste un appareil équilibré. C'est tout. C'est pas le truc génial, mais ça reste un appareil équilibré dans une gamme qui est plutôt complète aujourd'hui. Donc moi, ça me choque pas.
Non, c'est ça. Oui, excuse-moi.
Autant le capteur Touch ID en bas de l'écran, tu vois, tu prends ton iPhone en main, ton pouce il vient naturellement à cet endroit-là. Mm-hmm. Si le bouton Touch ID était sur la tranche ou sur le haut comme sur les nouveaux iPads, je sais pas si ça serait si pratique.
Ouais. Et puis après, tu vois, le truc c'est qu'il faut une gamme. Donc en fait, il faut que tu aies un appareil d'entrée de gamme et l'iPhone SE c'est cet appareil d'entrée de gamme aujourd'hui. Et après, tu vas taper. Si vraiment tu dis ah non, il me faut vraiment Face ID, tu vas taper sur l'iPhone 11 qui va te coûter un peu plus cher, mais pas tellement plus cher si vraiment c'est quelque chose qui te manque. Voilà. Alors ok, t'auras pas la même puissance, mais ça reste quand même des appareils très puissants, très agréables. Et voilà. Donc bon, c'est une affaire de compromis. Apple, ils ont jamais de toute façon le produit idéal pour tout le monde. Il propose une gamme et puis après tu choisis en fonction de tes envies, de tes moyens, et des fois tu dis ok, je vais craquer pour le modèle un peu plus haut de gamme parce que la segmentation d'Apple pour ça est très intelligente, on va dire. Très intelligente pour eux.
Effectivement. Alors on a du Smart HDR, on a une meilleure batterie, on a la 5G, 3 nouveaux coloris. Pas vrai, c'est pas des nouveaux. Le rouge, le blanc, le noir, un écran 4,7 pouces. Ce qu'on a de nouveau, in fine. Je pense qu'on l'avait pas, c'est le portrait mode sur le SE2. Ça, c'est dû à l'intelligence qui est embarquée grâce à la nouvelle puce A15 Bionic. Ce qui fait que avec un seul capteur, vous êtes capable de faire des photos, des effets bokeh, des choses comme ça super intéressantes que vous pouviez peut-être pas faire. Puis avec un prix d'entrée de gamme qui est relativement intéressant, je pense que ça correspond bien à l'achat d'une personne qui voudrait un iPhone sans vraiment y connaître grand-chose et qui veut payer le moins cher possible, mais avoir un iPhone qui va être bon pour 5-6 ans. C'est cohérent.
Après, surtout, je pense que c'est quand même, il me semble, la première fois qu'Apple propose un appareil qui soit équipé vraiment du dernier processeur. Ah, quoique le FE aussi, deuxième génération, l'avait le A13 Bionic. Donc c'est même pas, tu vois, c'est cohérent par rapport à la stratégie qu'ils ont. Bon, ça me choque pas.
Il a augmenté de 40 euros par rapport au modèle de 2020. C'est sûrement dû au coût des composants, je pense, ou je sais pas trop, ils ont pas trop parlé là-dessus, mais il y a quand même 40 euros de plus, ce qui a fait un peu parler, mais bon, voilà.
Sommes-nous surpris? Sommes-nous surpris que tout augmente en ce moment?
Non,
je vous pose la question.
Ouais.
C'est ça.
Passons sur le deuxième appareil dont on a parlé, mais sans plus, l'iPad Air. Moi, c'est la gamme que j'aime beaucoup, la gamme Air. J'ai eu le R1, R2, là, j'ai le R3. J'ai hésité sur le R4 parce que est-ce que j'en avais vraiment besoin? Mais là, le R5 me fait de l'œil, je vous dirais bien clairement, parce qu'il embarque la nouvelle puce M1, nouvelle puce qui date de maintenant un an quand même, et qui, a un prix beaucoup plus intéressant, je trouve, pour mes besoins, pour mon portefeuille, que le iPad Pro avec le processeur M1. Rapidement, on pourrait dire, ben, acheter un R1, acheter un Pro versus un R5. Audrey, t'es pas tout à fait du même avis, je pense. Sur Twitter, tu m'as repris, je pense.
Ouais, en fait, j'ai écrit un article sur mon blog à ce propos pour essayer de comprendre les 200€ de différence entre l'iPad R5 et l'iPad Pro 11 pouces. Et si on a un usage pro et assez technique et poussé de son iPad, on prendra un iPad Pro parce que je ne vais pas redire ici toutes les différences, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont importantes quand on a un usage poussé de son iPad, qui seront utiles pour une certaine catégorie de gens, notamment par rapport à l'écran, par rapport au double capteur photo, etc. Il y a quand même des choses qui justifient les 200 écarts et surtout le stockage qui est directement doublé sur l'iPad Pro 11 pouces par rapport à l'entrée de gamme du iPad R5. Donc, on passe de 64 à 128 gigas. Donc, pour moi, les 200€, ils sont totalement justifiés. Mais après, je pense qu'en effet, pour la plupart des gens, l'iPad R5, ça va être un super iPad. Parce qu'il a donc la puce Apple M1. Il a une caméra de 12 mégapixels. Il a Center Stage pour le suivi de caméra. Quand vous faites des visios, vous avez le suivi de la caméra. Alors, Apple a pas mal insisté pendant le keynote sur... les super accessoires qui sont vendus avec l'iPad. Alors forcément, hein, ça fait envie. Hein, tu vois le Magic Keyboard Folio, l'Apple Pencil 2. Donc tout ça, bien sûr, c'est des accessoires vendus à part. Donc ça augmente un petit peu la note. Mais ça reste des super accessoires. Au niveau du prix, j'avais noté $599. Du coup, je ne sais plus combien ça fait en euros. Est-ce que vous avez ça?
J'ai pas le prix canadien, hein, si je vais sur le prix canadien.
Non, c'est 699 pour l'entrée de gamme. Ensuite, on est à combien si tu as la version Wi-Fi cellule. Attends, pour l'iPad Air, hein, on parle. 64 Go, 699, 869 pardon, pour le 256. Et après, si tu prends la version cellulaire, ben, c'est 130, 160 euros. Je calcule. Ouais, c'est ça. C'est ça là.
Donc c'est vrai que la question se pose entre les deux, mais c'est pas mal de comparer sur le site d'Apple. Vous avez un super outil pour comparer les modèles entre eux et il y a toutes les caractéristiques techniques. Et on peut donc comparer facilement, ah bah ça, celui-là il a ça, celui-là il a pas ça. Et donc on peut s'expliquer, on peut mieux comprendre l'écart de prix.
Ouais, moi il y a juste un truc qui me gêne, c'est qu'en fait l'iPad Air, physiquement je trouve vachement plus mastoc maintenant que l'iPad 10 pouces. Et que l'iPad Air, en fait, quand tu regardes la différence de poids, avant il y avait une vraie différence, si tu veux, en termes de design, en termes de poids, tu vois, il y a la différence. Aujourd'hui, ils ont 20 grammes de différence, en fait. Donc le côté Air, il apparaît un peu moins, je trouve, que le.
C'est ça.
Non, mais c'est vrai, en fait si c'est tu regardes bien, le premier iPad Air, moi je sais que c'était l'iPad Air 2, j'avais craqué dessus vraiment à l'époque, et parce qu'il était très. Il avait vraiment un design affiné, tu sentais une différence réellement par rapport à l'iPad classique. Là, la différence entre le Air et l'iPad classique, elle est vachement ténue, en fait. Donc
l'iPad R1 était une brique, par exemple. Alors, tu sais, ils sautent un cycle, un gros, un petit, puis là, on est...
Ouais, c'est ça, c'est bizarre. Ouais, non, mais c'est ça qui est assez bizarre, en fait. Donc, moi, je suis assez perplexe sur la gamme iPad. C'est vrai que les différenciations deviennent un peu plus compliquées à chaque fois. Ouais. Là, tu vois, moi, je suis en train de me poser la question, parce que j'ai besoin d'un appareil, j'ai un iPad qui me sert surtout pour faire des tests, que je n'utilise pas forcément des masses, mais je me dis, je pourrais me faire plaisir à m'acheter un autre iPad. Je pense qu'aujourd'hui, j'allais plutôt vers le mini. Mais le mini, ça m'enquiquine, parce que maintenant, il est plus cher que l'iPad classique. Donc, je me dis, en même temps, ouais, c'est bien d'avoir un iPad mini, mais il est petit, mais costaud, mais il est aussi cher. Donc, par rapport à mes usages, est-ce que ce serait vraiment pertinent? C'est pas si évident que ça, en fait. Pour s'y retrouver, pour savoir ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut prendre, c'est pas facile.
Mais il est si mignon, le mini, moi, je trouve.
Ah, et l'iPad mini, il est mimi, hein, bien sûr. Mais bon.
L'iPad mini. Ce qui est drôle, c'est qu'ici au Canada, la compagnie Apple fait du financement des produits à 0% d'intérêt, c'est-à-dire qu'on peut les avoir en location. Tout ce qui est iPhone, on peut avoir ça en location, pas en location, en paiement mensualisé. Pour ce qui est des iPhones, c'est sur du 24 mois. Pour ce qui est du reste de la gamme des produits, c'est sur 6 mois. Alors, c'est toujours un peu drôle de voir un iPhone beaucoup moins cher qu'un iPad qui est pourtant moins cher à l'achat. à suivre si je l'achète. On verra. J'essaie de résister à ne pas trop dépenser dans ces choses-là.
D'ailleurs, je voulais juste rajouter, moi j'utilise un iPad Pro, 11 pouces de fin 2018, avec le design de l'iPad Air et des nouveaux iPad Pro. Et en fait, je trouve qu'il vieillit vraiment super bien. Là, je me dis, à la fin de l'année, il va avoir 4 ans et j'ai vraiment l'impression qu'il fonctionne comme au premier jour. Donc si vraiment l'iPad Pro, vous avez envie d'avoir un iPad Pro, faut pas hésiter à regarder l'occasion. C'est ce que j'ai conseillé à je sais plus qui sur Twitter, parce qu'en gros, c'était « Ouais, ça fait un sacré budget. » Ouais, mais les iPad Pro qui sont sortis depuis 2018 avec le design, l'Apple Pencil 2, etc., l'USB-C, etc., bah tout, enfin, ils marchent très très bien, même s'ils ont déjà 1 an, 2 ans. Donc on peut s'offrir des super produits aujourd'hui en sachant qu'ils sont mis à jour longtemps, et on peut donc les toucher à moins cher que du neuf. Donc voilà, faut pas oublier ce marché-là.
Tout à fait. Puis des fois, ça permet de trouver effectivement l'iPad qui te convient, parce que tu n'as pas forcément besoin de 256Go, mais tu peux trouver 64Go, c'est un peu limite, alors qu'on peut trouver des modèles, des fois, 128Go, qui ont un peu plus vieux, mais qui sont très bien aussi. Quoi.
Ouais.
Guillaume, je regarde ton décor en arrière de toi, et tu as un superbe Mac Cube qui me fait penser à ce qu'on a découvert, en fait, ce qu'ils ont annoncé. Le Mac Studio, un Mac Mini qui a été étiré. Hein, on l'a étiré vers le haut, hein, pour le grossir un peu, pour pouvoir rentrer certaines nouvelles composantes, notamment un nouveau processeur. Alors, on passe du M1 au M... Suivez bien tout le monde. On passe du M1 au M1 Pro, au M1 Max, et maintenant le M1 Ultra. Alors, on n'en finit plus. Moi, je n'achète pas de processeur, de produits Apple si j'ai pas le M1 Premium Plus Deluxe. C'est ce que je veux pour mon prochain Mac.
Ça sera le M1 Extreme.
Oui, ça prend ça. Dans les notes de l'émission, Audrey, t'as marqué M1 Max égale 2 M1. Effectivement, ça ressemble à ça. Expliquez-moi un peu. Ben, on va y aller avec Audrey. Explique-moi pourquoi t'as écrit M1 Max égale 2 M1.
Parce qu'Apple va vraiment super vite. Ils nous sortent des nouveaux processeurs 2 fois plus puissants tous les 6 mois. J'ai l'impression que c'est vraiment un truc de dingue. Et en fait, je voulais faire un petit récap avec le petit schéma qu'on vous mettra sur Twitter, que je trouve intéressant, puisque en fait, ça montre qu'il y a la puce Apple M1. Ensuite, ils ont sorti la puce Apple M1 Pro, qui est 2 fois plus puissante que la M1. Ils ont sorti la Apple M1 Max, qui est 2 fois plus puissante que la M1 Pro. Et là, ils nous ont sorti la M1 Ultra, qui représente en fait 2 puces M1 Max. Donc, c'est un peu dur à suivre. Je vous l'accorde, avec un schéma, ça va beaucoup mieux. Mais en tout cas, voilà, ils ont réussi, grâce à l'Ultra Fusion, à mettre 2 M1 Max dans un Mac Mini, enfin, dans un, pardon, un Mac Studio. Donc, c'est assez incroyable, en fait. Enfin, ça donne presque ça donne presque l'impression en fait que les Mac avec une puce M1 en fait ils sont complètement has-been, ils sont pas du tout puissants, alors que ça fait 1 an et demi qu'ils sont sortis et qu'ils sont... Moi je travaille avec un M1 toute la journée et c'est super. Donc faut pas oublier non plus que les Mac avec une puce M1 sont déjà super puissants. Là, on touche vraiment des sommets. J'irai pas dans les détails techniques dont je comprends pas forcément tout, mais voilà, on va parler du Mac Studio, puis on va voir surtout pour qui il a été conçu.
Avant d'aller dans le M1, le Mac Studio, Guillaume, un commentaire sur ces M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra. Est-ce que ça, toi qui travailles avec ta compagnie plus dans le domaine professionnel, ça fait du sens de communiquer là-dessus quand même au niveau pro ou on est perdu aussi?
Non, c'est tout à fait logique, en fait. Apple, alors, c'est un peu compliqué parce que Apple, quand ils font pas de produits pro, on leur dit, ah, mais vous faites pas des produits pro. Puis quand ils balancent des produits pro, on leur dit, ah, mais attendez, vous communiquez sur les pros et les autres, alors. J'ai l'impression des fois qu'Apple est toujours perdante quoi qu'elle fasse. C'est assez marrant. Donc, bien sûr que ça fait du sens. Et après, faut pas oublier que ce que vous voyez aujourd'hui pour les pros, c'est ce que vous aurez demain sur la machine de Monsieur Tout-le-Monde, en fait. C'est tout. C'est l'évolution logique des choses et c'est ce qui permet à Apple d'être différenciant et de montrer surtout que le passage vers leur propre silicone et maîtriser leur silicone et se dire aujourd'hui, demain, on fait nos propres processeurs, on peut les adapter pour le futur, pour qu'ils correspondent vraiment à nos besoins, et on n'est pas dépendant d'une autre entreprise pour nos produits, c'est une stratégie qui marche. Puisqu'aujourd'hui, en fait, si on compare techniquement, et c'est là où les comparaisons sont importantes, pourquoi Apple a fait ça? C'est pas pour dire on va avoir les processeurs les plus puissants du marché, c'est pour avoir des machines qui, derrière, non seulement sont puissantes, mais consomment peu d'énergie et sont capables d'aller aussi dans des machines portables, par exemple. C'est pas pour rien que les premiers portables avec les M1 et les processeurs Pro et Max ont été des machines portables. Enfin, voilà, MacBook Air, après il y a eu Mac Mini aussi, mais bon. Mais ça fait sens pour Apple de dire, aujourd'hui, on est une société qui est capable de faire... on a fait nos propres processeurs, ça... Pourquoi on a fait ça? Bah, regardez maintenant ce que ça donne concrètement. Et le résultat concrètement, c'est que ils ont des machines qui, en termes de puissance, explosent tout ce qu'il y a sur le marché. Et quand on dit explose tout ce qu'il y a sur le marché, il faut bien comprendre, c'est pas forcément que, en termes de processeur, on pourrait trouver plus rapide. On pourrait trouver aussi rapide, et Intel a sorti, ils étaient très contents il y a quelques semaines de dire, regardez, on a des processeurs qui font aussi bien que ceux d'Apple. Oui, mais le processeur d'Apple, enfin, la machine chez Apple toute seule consomme moins et beaucoup moins que le processeur tout seul chez Intel, sans la carte graphique, sans tout le reste autour. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux la même machine dans le monde PC, c'est bien, mais il y a un petit truc, tu vois, je disais récemment, il y a des mecs qui ont fait des tests, par exemple, sur des logiciels de montage qui existent en Mac et PC, ils ont fait des tests, ils disent, alors on a fait le test sur un PC, on a fait notre test, la batterie, elle a perdu un tiers de l'autonomie sur PC. Sur le Mac, on n'a pas vu la jauge bouger d'autonomie, c'est-à-dire qu'on était toujours à 100% quand on avait fini le test. Ça donne un ordre d'idée en fait, et c'est ça. Et c'est pour ça qu'Apple, pour Apple, c'est super important. Et se dire qu'aujourd'hui, ils réussissent à faire en fait une machine de la taille du Mac Mini, enfin du Mac Studio, donc un petit Mac qui est un peu plus gros que deux Mac Mini, on va dire, mais qui soit capable d'avoir la même puissance que le Mac Pro actuel en Intel, c'est quand même inédit. C'est quelque chose d'inédit sur le marché. Et tous les gens qui connaissent un peu l'environnement informatique, quand tu vas chercher un peu dans le monde des professionnels qui parlent de processeurs, ils disent la marge de manœuvre est folle par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. On voit ce qu'ils réussissent à mettre aujourd'hui dans un petit boîtier qui, en plus, n'a pas beaucoup de chaleur, etc., qui consomme très peu. On pourra parler de la consommation un peu plus tard. Mais regardez ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui avec ce petit boîtier, ce qu'ils arrivent à mettre comme puissance, et imaginez la suite, quoi. Là, il y a un gouffre, en fait, entre ce que les constructeurs comme Intel fournissent et ce qu'Apple réussit à fournir vraiment pour les professionnels. Et ça va faire revenir, effectivement, des pros qui auraient peut-être pu se dire on abandonne Apple pendant quelques années. Là, ils peuvent regarder Apple de façon très intéressée. Parce que pour eux, pour nous, on peut se dire ouais, un traitement, il fait 30 secondes de moins ou 2 minutes de moins quand on le fait sur ordinateur, c'est pas très grave. Pour un professionnel, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, tu multiplies ça par X jours, par X personnes dans l'entreprise, ça peut représenter beaucoup d'argent. Genre beaucoup. Donc l'investissement, il sera important, mais derrière, le gain de performance sera tellement significatif que pour eux, en quelques mois, peut-être, ce sera rentabilisé.
Il y avait un article, je pense qu'on avait... Je l'avais partagé dans Apple différemment. Bon, en tous les cas, je vais vous le retrouver, je vais le mettre dans les notes de l'émission. C'était des développeurs, je pense, chez Reddit ou chez GitHub, je ne me rappelle plus laquelle des deux compagnies, qui avaient fait, qui avaient fait justement des bench tests de compilation. Le taux horaire d'un développeur, exemple, typiquement, moi, je suis plus dans le milieu du développeur, le taux horaire du développeur est tellement élevé que de gagner 1 minute par compilation, 2 minutes par compilation, mis bout à bout, pour eux, ça payait la machine. Pro, parce que là on parlait des MacBook Pro à l'époque, ça payait la machine en 4 mois, tout simplement.
Écoute, j'ai retrouvé la comparaison, ils ont fait le comparatif, effectivement c'est chez Reddit, ils ont fait le calcul pour une équipe de 9 personnes, en fait, c'est rentabilisé en 3 mois. L'investissement sur le MacBook 2021 était rentabilisé en 3 mois.
Quand on compare le taux horaire humain versus le taux de l'application, le taux du le prix du produit, c'est vite rentabilisé. C'est peut-être pas des choses que monsieur, madame, tout le monde peuvent calculer quand on est dans une perspective de se faire plaisir à acheter un produit haut de gamme. Mais quand on est au niveau des compagnies, ça fait toute une différence. Puis, Ben, ces processeurs-là, Audrey, dans les faits, ça vient donner une vraie mobilité, hein, parce que des processeurs qui consomment moins, ben, consomment moins sur la batterie, ben, fait que, ben, maintenant, un créateur, un développeur, a un appareil vraiment mobile, qui n'a pas besoin d'être toujours attaché à une prise électrique.
Oui. Ben, en plus, moi, je trouve que le prix du Mac Studio est quand même très... j'allais dire bas. Oui, pour un professionnel, acheter un Mac Studio qui coûte, je crois que c'est 2299 euros. En gros, pour moi, j'ai pas du tout été choqué par le prix quand je vois la puissance. Déjà, quand je vois la puissance juste de mon Mac Mini que j'ai payé et je l'ai boosté en option et que j'ai payé 1 400 euros. Franchement, quand je vois le gain de temps que j'ai par rapport à mon MacBook Pro Intel, en gros, il est 3 fois plus rapide pour encoder les vidéos, pour l'export, pour tout ce qu'on veut. Donc, il m'a coûté quand même 2 fois moins cher que mon MacBook Pro Intel et il va 3 fois plus vite. Donc le calcul en effet est vite fait, même quand on est indépendant, qu'on travaille tout seul à son compte. Donc pour moi, en fait, le prix du Mac Studio m'a pas du tout choqué et c'est le prix d'un ordinateur professionnel, j'ai envie de dire. Alors après, il y a l'écran dont on va parler, mais
c'est juste ça. Et comme tu dis, c'est si déjà quand vous regardez la machine, vous dites le tarif, vous dites c'est cher, c'est que c'est pas pour vous. En fait, grosso modo. Pour comparaison, quand même, Apple a fait un petit test. Ils disent, ils ont quand même signalé, voilà, qu'ils arrivaient à avoir des gains de performance qui étaient aussi importants qu'avec la carte Apple Afterburner, qui est une carte dédiée pour avoir des encodages plus rapides sur la vidéo, en particulier sur les formats vraiment axés vidéo dans des logiciels Final Cut Pro, etc. Donc, ça permet d'avoir un gain de performance très, 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 très important. La carte coûte 2 300 euros.
Voilà.
Donc toute seule, hein. Et je rappelle qu'elle se met dans un Power Mac, dans un Mac Pro, pardon, qui à la base coûte 6 500 euros. Voilà. Donc en réalité, si on booste la machine, oui, tu peux atteindre des tarifs indécents. Mais là encore, si vous pensez que cette machine est trop chère, bah c'est peut-être parce qu'elle n'est pas pour vous. Et aujourd'hui, le Mac Studio, son nom veut tout dire. C'est pour les studios d'enregistrement, pour les studios vidéo, pour les studios photo, etc. Qui ont besoin d'avoir un gain de performance énorme par rapport à leurs tâches et qui sont effectivement limités parce que les Mac Mini peuvent pas monter au-delà de 16 Go de RAM et vont pas être taillés pour certains usages. Et c'est normal. Enfin, le M1, il est pas taillé pour tous les usages. Par contre, le Mac Studio est taillé pour ses usages. Voilà. Il est taillé en termes de processeur pour ses usages. Et pas que sur le processeur. Et ça, c'est le point dont je vais parler après, mais je sais pas si on va en parler après, sur le design. Moi, il y a un point que je trouve vachement important sur le design, c'est le fait que Apple ait remis des ports en façade. Ça paraît débile, mais pendant des années, voilà, ils ont forcé l'USB-C, etc. Ils ont poussé les technologies en disant non, c'est les Macs qui sont comme ça, ils ont des ports USB-C, ils sont plus fins, plus machin. Bah là, aujourd'hui, ils font un ordinateur qui clairement est plus épais, qui est pas forcément très joli d'ailleurs. C'est vrai qu'il est pas très très beau en termes de design. Ils auraient pu faire un truc un peu mieux qu'un Mac Mini avec un gros front, mais il a des ports USB en façade, deux ports USB-C, il a un lecteur d'USD card en façade, incroyable, donc c'est quand même plus pratique que sur les Mac Mini. Il a une tétrachier de ports à l'arrière, dont un port 10 gigabits. Oui, tétrachier, oui, j'utilise le terme. Voilà.
C'est beaucoup.
Voilà, mais il y a même un port 10 gigabits. Alors, on peut se dire, mais pourquoi du 10 gigabits? Bah, parce que les professionnels, ils ont des réseaux 10 gigabits, ça va plus vite, c'est mieux, voilà, c'est tout. Et ça évite d'avoir une carte en plus, juste pour le réseau. Des ports Thunderbolt, en veux-tu en voilà, du HDMI quand même, enfin. Donc, c'est une machine sur laquelle ils ont quand même pris en compte énormément les considérations des professionnels. Ils ont demandé qu'est-ce qui vous ferait plaisir, et ben nous on aimerait bien avoir ça. Ok, on le fait. Là où une époque où ça aurait été, on va fournir ça, puis contentez-vous de ça. Voilà. C'était ce qui a mené au MacBook Pro 2016, catastrophique avec les claviers papillons. Il y a d'autres machines, le Mac Pro 2013 avec son système de dissipation thermique qui fonctionnait pas. Enfin, donc. Ils sont à l'écoute et en même temps ils sont beaucoup plus rationnels sur les choix. Ils sont capables de se dire bon ok, ça c'est un peu moins fouette au niveau peut-être du design de la machine en général, mais ce sera pertinent pour un usage professionnel. Voilà. Et ben moi je trouve ça très bien.
En tout cas, ça explique le fait qu'ils ont laissé le Mac Mini à la taille qu'il avait avant et taille actuelle. Parce que souvent on a dit mais le Mac Mini il est vide, ils auraient pu le faire plus petit et tout. Et en fait, comme on voit le Mac, moi quand j'ai vu le Mac Studio, ça a répondu à cette question. C'est qu'en gros ils doivent certainement utiliser au niveau de la fabrication, peut-être des moules identiques ou je sais pas, même si forcément le Mac Studio est plus haut. Mais du coup, ça explique bien que, voilà, que le Mac Mini ait gardé ce format-là. Et moi, j'ai une amie graphiste que j'ai vue samedi, là, dernier, qui m'a dit, bon, il n'y a pas d'iMac 27 pouces. Voilà, ça n'existe plus. Donc, est-ce que tu peux me conseiller elle a dit, moi, c'est clair, elle est graphiste. Elle a dit, moi, je veux un Mac Studio et puis je veux l'écran Studio Display. Voilà, allez, on configure et tout. Et je demande ça à mon boss, quoi. Donc, les pros, en fait, enfin, moi, je me rends compte qu'ils attendaient que ça.
Bien sûr.
Un Mac avec plein de prises où on peut brancher l'écran qu'on veut. Et clairement, pour tous les créatifs, les graphistes, les musiciens, enfin, ça, c'est, je pense que c'est vraiment le Mac qui aurait pas pu exister tant que. Johnny Ive était là. Je pense que c'est son départ aussi qui a fait qu'Apple
bien sûr.
A créé ce produit.
Elle a rationalisé, enfin, et voilà, ils sont pris un mur avec le Mac Pro, avec la poubelle de table, hein, le Mac Pro noir, ils sont pris un mur à cette époque-là. Enfin, c'est quand même une machine qui a duré au catalogue quasiment 6 ans, je crois, c'est avec la même configuration, ce qui était délirant. Et parce que techniquement, elle n'était pas faite pour ça. Enfin, elle n'était pas faite pour les professionnels. Elle était faite pour les pros sur le papier, mais en réalité, tout ce que les pros voulaient, il n'y avait pas tout ça dedans. Et moi, je trouve ça vachement intéressant, effectivement, qu'ils soient partis sur quelque chose de totalement différent, sur quelque chose qu'ils maîtrisaient, puisqu'en fait, le Mac Mini, c'est une machine qu'ils maîtrisaient, mais en étant à l'écoute vraiment des besoins du professionnel. Donc, d'augmenter un petit peu la capacité pour les besoins du pro. Et voilà, ils en sont quand même à un an et quelques de l'existence du M1 et des puces Apple Silicon pour Mac. Et je trouve que c'est quand même assez impressionnant ce vers quoi ils tendent, quoi.
Est-ce que vous avez déjà écouté, je vais faire un aparté, est-ce que vous avez déjà écouté ou vu le film Le Guide du Voyageur Galactique?
Oui.
Vous rappelez-vous la machine qui donne la réponse à toute question?
Alors non, mais oui, peut-être un peu. Il y a peut-être un peu du design de l'écran, c'est ça?
C'est exactement le design du Mac Mini Studio. Alors, allez faire un tour, vous allez voir. C'est exactement cette machine-là. Et moi, ça m'a fait penser directement à ça. Alors, puce M1 Max, on prend la puce M1 Max, on fait copier-coller, on l'inverse, on la colle, on fait la M1 Ultra, on passe de 10 cœurs à 20 cœurs, on passe de 8 cœurs haute performance à 16 cœurs haute performance, on passe de 24 GPU à 48 GPU. Est-ce que on va avoir un Optimus Prime Ultra M1 la prochaine fois avec 96 GPU, avec 40 cœurs? On va voir s'ils vont encore adapter cette technologie.
Écoute,
cette technique.
Je préfère que ce soit un Optimus Prime qu'un Megatron, personnellement, mais voilà. C'est le fan de Transformers qui parle. Après, tout est possible. En fait, aujourd'hui, ils n'ont pas encore révélé tout. Je pense qu'on ne sait pas forcément encore tout, vraiment, sur la... De toute façon, c'est certain qu'on ne se connaît pas leur projet pour la suite. Moi, je sais qu'aujourd'hui, on était très surpris. En fait, beaucoup de monde était vraiment très surpris par le gain de performance monstrueux sur les M1 Pro et M1 Max. Et que personne s'attendait effectivement à ce qu'ils sortent ce lapin du chapeau. Le M1 Ultra était encore une autre surprise, même si c'est un processeur coûteux, hein, mais c'est le jeu. Alors, voilà, ils sont capables de à peu près tout maintenant. La question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire en termes d'évolution possible, parce que typiquement, un Mac Pro, l'avantage, c'est que tu peux augmenter énormément la RAM, tu peux mettre un téra de RAM dedans, mine de rien. Alors bon, ça te coûte une voiture, hein, mais tu peux mettre un téra de RAM dedans si t'as envie. Là où tu seras limité à 128 Go sur un sur un Mac Studio, peut-être qu'ils pourront augmenter la capacité de la mémoire encore sur le futur Mac Pro. La question, ça va être les cartes d'extension. Qu'est-ce qu'ils vont rajouter comme possibilité d'extension? Moi, j'étais surpris que le Mac Studio permette pas de rajouter des cartes, en fait. J'aurais pensé qu'ils auraient pu avoir un design qui permettrait d'ajouter au moins une carte. Mais c'est plus l'idée d'Apple. C'est plus l'idée d'Apple de dire rajouter des cartes. Ouais, je pense que ce sera réservé au Mac Pro, et puis voilà. Et encore, c'est même pas sûr. On verra. On verra ce qu'ils font. Je ne sais pas.
Il y avait une époque où les pros, en tout cas, je pensais que les pros aimaient ça, bidouiller, augmenter, bonifier leur machine en l'ouvrant. Mais visiblement, c'est terminé, en tous les cas.
Mais encore une fois, rappelle-toi, je crois qu'on a déjà eu ce débat, c'est qu'est-ce qu'un pro? Qu'est-ce qu'un professionnel? J'ai déjà écrit un article là-dessus sur mon blog, hein, vous irez le lire, c'est qu'est-ce qu'un professionnel? Quelqu'un qui écrit un bouquin sur un iPad Air ou un iPad et qui réussit à sortir son bouquin, c'est un professionnel. Voilà, en fait, le professionnel pro, et j'ai toujours trouvé que chez Apple, la gamme pro ne voulait pas dire grand-chose. Non. Et je trouve que pour ça, le studio est intéressant. Parce que studio, il y a un vrai positionnement marketing dans le nom. Qu'il n'y avait pas sur la gamme pro. Pro, ça voulait dire tout et n'importe quoi. À l'époque où tu avais les segmentations, tu avais Power Mac, PowerBook Pro, enfin PowerBook à l'époque, tu avais la partie Power qui disait, voilà, c'est les machines qui ont de la puissance. À partir du moment où tu mets pro, tu dis ça segmente les marchés en professionnels contre non professionnels. Mais les non professionnels qui utilisent des ordinateurs professionnels, ça peut exister, et vice-versa. Donc, moi, j'ai jamais trop aimé ce côté vision Mac Pro, machin. C'est une segmentation que j'ai jamais trop appréciée. Je trouve ça intéressant aujourd'hui qu'il y ait un ordinateur qui soit marqué clairement comme studio, pour dire, voilà, on positionne cette machine pour le studio. Est-ce qu'ils feront un jour un Mac vidéo ou autre chose? Pourquoi pas? Je sais pas. Mais il y a une question qui va se poser là-dessus.
Ouais, en fait, moi, ils ciblent les créatifs au-delà qu'ils soient pro ou amateurs. Voilà. C'est studio, pour moi, ça veut dire créatif.
Mais tu vois, par exemple, typiquement sur le MacBook Pro, aujourd'hui, je travaille sur du Mac toute la journée, 10 heures par jour, et voilà. J'ai un MacBook Air. Est-ce que je suis moins professionnel que celui qui travaille sur un MacBook Pro? Pas du tout. C'est juste que mes tâches ne nécessitent pas non plus une puissance phénoménale, voilà. Et pour autant, mon travail ne sera pas moins valable que celui d'autres personnes qui travaillent sur un MacBook Pro ou autre. Moi, j'en suis au stade où, voilà, le MacBook Pro 14 pouces est quasiment trop puissant pour moi. Il y en a à ce point-là aujourd'hui chez Apple. Il y a quelques années, je me posais pas question, j'allais tout de suite sur une gamme professionnelle, je prenais un MacBook Pro 15, et voilà. Aujourd'hui, les MacBook Air me suffisent. C'est assez magique quand même, quand on regarde bien. Donc, cette segmentation chez Apple, elle existe toujours. Je sais plus pourquoi je suis parti pour dire ça, mais voilà. Mais pour moi, je trouve ça vraiment intéressant, en tout cas, que voilà, le Mac Studio soit vraiment une machine positionnée professionnellement avec un nom différent. Je sais pas ce qu'Apple réservera pour la suite, mais je pense quand même qu'ils en ont sous le pied encore.
Moi, je me pose une question. Est-ce qu'on va revoir des serveurs chez Apple? Il y a eu un temps où on a eu des serveurs, mais c'est un processeur qui est digne d'une ferme de serveurs, c'est-à-dire qui consomme pas, qui est ultra puissant. Toi, tu y crois pas, Guillaume?
Bah non, il faudrait qu'en fait ils aient une stratégie serveur, il faudrait qu'ils aient un environnement serveur et un système serveur, et ça ils l'ont tué. Donc aujourd'hui je pense pas qu'Apple ait envie de se dire tiens on va refaire à nouveau des serveurs et aller sur ce marché là, alors que le marché serveur il est parti vers le cloud, il est parti vers d'autres solutions et que c'est pas un marché ultra concurrentiel. Et Apple peut encore me surprendre, hein, mais j'y crois plus trop. Franchement je pense que pour eux c'est fini, ils sont passés à autre chose et voilà. Et aujourd'hui si vous voulez du serveur, bah il y a des solutions, il y a des NAS, il y a du Windows serveur, il y a du Linux, puis voilà, et eux ils font ce qu'ils font, ils le font bien. Ils font déjà tellement de choses à côté, voilà. Mais après, si tu as un Mac serveur, tu as le Mac Pro en version rack. Mais ça coûte juste très très cher pour un usage quasiment inutile. Pas inutile pour beaucoup de monde, on va dire.
À suivre, à suivre. Audrey, alors, ton ami va... Ce que je comprends, c'est que ton ami va acheter un studio. Elle va l'avoir bientôt et tu vas pouvoir le tester.
Ah ben non, ça sera dans son entreprise. Non, non, c'est okay. Non, non, ça c'est un Mac d'entreprise, donc j'irai pas squatter l'entreprise pour tester le pour tester le Mac Studio, mais elle est vraiment aussi intéressée par l'écran, oui. Le nouvel écran. Ouais. Alors, vas-y Matt, je te laisse.
Oui, ben en fait, non, je te laisse parce que c'est le on va parler du Studio Display, le nouvel écran d'Apple, le nouvel écran entre guillemets d'entrée de gamme. chez Apple, avec un écran Retina 5K, 27 pouces. Moi, personnellement, je pense que ça va être l'écran du iMac 27 pouces qui va arriver plus tard, mais peut-être que je me trompe. Ce qui est assez... évidemment, il y a plein d'avantages au niveau de la qualité des pixels, des nits. Ce qui m'a surpris, c'est d'avoir un processeur A13 dedans. Ce qui m'a surpris, c'est d'avoir une caméra embarquée. Ce qui m'a surpris, c'est des haut-parleurs intégrés à l'intérieur. La balle est lancée, je dirais. Audrey, toi, est-ce que tu vas acheter... Ben, je sais déjà la réponse, mais est-ce qu'il fait plaisir? Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as un désir face à ce studio display?
Ben, écoute, j'en rêve la nuit, donc je pense que oui. Le marketing fonctionne bien. En fait, il répond aux problématiques qu'on a avec le Mac Studio ou le Mac Mini, c'est que on n'a pas, quand on a un Mac Mini, on n'a pas de webcam, on n'a pas de micro, donc faut brancher plein de choses. Mmh. Donc là, en branchant juste l'écran en USB-C, on répond à ces problèmes-là. Il a aussi 4 ports USB-C à l'arrière, donc c'est un super écran, mais clairement, il est hors budget pour moi. Donc, et puis mon écran LG 27 pouces 4K est tout à fait correct pour mon usage. Donc même s'il me fait très envie, il est voilà 1 700 €, c'est hors budget.
On revoit la polémique du pied parce que maintenant on a trois pieds. Le pied standard à inclinaison normale, un pied avec une inclinaison qu'on peut lever et descendre, et un support, un kit de montage VESA. Bon, ben, notre expert au niveau professionnel, Guillaume, est-ce que ça va être, ça va se vendre comme des petits pains au niveau pro, ces écrans-là? Ben, encore une fois, je veux pas t'en venir sur pro, mais au niveau de ta clientèle, particulièrement, est-ce que c'est le genre d'écran qui est acheté, désiré, qui était attendu?
Écoute, là, les livraisons viennent de passer à 8 à 10 semaines, donc sur l'Apple Store, donc ça répond à tes questions, je pense. Bon, maintenant, même s'il y a des problèmes de disponibilité, je pense en plus il y a des problèmes de composants. Oui, je pense que de toute façon, alors c'est vrai que ce qui manquait dans la gamme Apple, c'était un écran, et un écran qui est tout embarqué. Alors moi, j'utilise par exemple un écran LG qui a été conçu avec Apple, qui a quelques petits avantages. Tu as les contrôles au clavier qui fonctionnent de façon native avec le Mac. T'as un seul câble pour brancher l'écran et c'est tout connecté, donc c'est formidable. Mais t'as pas de webcam, t'as pas de système, le système audio est pourri. Enfin, t'as plein de trucs qui sont très en dessous de ce que tu pourrais atteindre. Puis voilà, la qualité de finition est pas celle que tu pourrais attendre d'un écran Apple. Je regrette juste que le pied soit moche, vraiment, sur ces écrans. Le truc carré, là, comme ça, j'adorais le pied un peu arrondi, un peu courbe des écrans, il y a quelques années, sur mon bureau. Des 27 pouces et 24 pouces, il y avait vraiment des écrans, une courbe qui était magnifique. Et celles-là, ils n'ont pas, je trouve ça très très laid. Mais tu peux les brancher sur un support VESA pour le même prix. Enfin, tu peux avoir la version VESA, donc pour l'accrocher sur un pied de ton choix directement, donc ça, c'est très cool. Donc le fait qu'Apple voilà embarque tout en direct, je trouve ça super bien. Voilà, t'as un seul câble à brancher, puis t'as quand même un processeur A13 dedans. Alors là, moi, je trouve ça assez délirant, puisqu'un jour peut-être qu'Apple va faire une mise à jour, et hop, t'auras un Apple TV directement dans ton écran, t'auras plus rien à faire. Pourquoi pas? C'est peut-être ça la télé Apple en fait qu'on attendait depuis des années. Hop, ils activent la fonction Apple TV et c'est fini. Bon, il manquerait du stockage.
Ils ont expliqué qu'ils ont mis aussi une puce Apple A13 pour tous les gens qui ont un Mac Intel. Mmh. Qui ne peut pas gérer le center stage de la caméra, bah oui. C'est-à-dire le suivi. Donc, il fallait une puce A13 avec le Neural Engine pour gérer le suivi des gens devant la caméra. Donc, ils ont pensé aussi aux gens qui sont sur Intel, et ça, c'est plutôt cool. À voir aussi sur PC si ça marche, je sais pas.
Après, la question, c'est est-ce qu'il y aura encore un iMac 27 pouces? Pas évident, puisqu'aujourd'hui, ils vont dire, si vous voulez un iMac 27 pouces, il y a le premier Mac Mini, un Mac Studio, et puis l'écran Apple Studio, vous aurez la config qu'il faut, et puis voilà. C'est pas tout à fait la même chose quand même, on peut espérer qu'un jour ils reviennent là-dessus, mais c'est pas évident qu'ils se disent que l'iMac 27 pouces ait encore une place dans la gamme dans le futur. On sait pas. Ouais. À voir. Mais après, je pense que c'est un très bel écran. Il est un peu cher, mais c'est encore une fois, c'est un usage professionnel. Donc, c'est pas un écran qui est taillé pour du jeu vidéo, truc comme ça. C'est pas fait pour ça. C'est normal. C'est vraiment un écran pro. Vous le prenez, vous le branchez, vous avez une super bonne qualité colorimétrique. On branche avec un seul câble sur votre ordinateur, il y a tout qui passe dedans et c'est formidable. C'est un écran intéressant en tout cas, ouais, clairement.
À mon avis, il doit être magnifique.
En tout cas, ça, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps de chez Apple, hein, qu'ils sortent un vrai écran, et ça c'était quelque chose qui était très demandé. Moi, j'ai encore commandé des écrans pour un client il n'y a pas longtemps, et on essaie de trouver des écrans sympas pour Apple, et pour les Mac, et il n'y a pas forcément beaucoup de choix quand on a quelque chose qui fonctionne bien avec des produits Apple, qui se branche avec un seul câble, qui passe pas par de l'HDMI, parce que l'HDMI pose des problèmes ou autre. Donc, non, c'est cool. Franchement, c'est une bonne nouvelle.
Il y avait quand même le Pro Display XDR, mais qui était...
Hors de prix. Enfin, c'est...
Le prix, voilà, donc c'est là, c'est pas la même gamme. Beaucoup plus abordable, si on peut dire. Ouais.
Ah bah, c'est... tu en achètes quand même 4 pour le même prix, donc ouais.
C'est ça.
C'est l'entrée de gamme, c'est l'entrée de gamme, évidemment.
C'est une entrée de gamme qui est coûteuse, mais c'est une entrée de gamme... voilà, c'est une entrée de gamme qui
existe. Plus il y a de choix, mieux c'est. Hein.
Ouais, ouais, voilà. Je veux dire, tu prends deux pieds d'écran XDR, tu peux t'acheter un studio display tout seul, donc voilà.
Audrey, tu as fait c'est le calcul ça. Sur Twitter et tu as partagé ça. Tu parlais de consommation électrique quand on additionne le Mac Studio avec le Studio Display.
Oui. Ah oui, ça m'intéresse toujours, moi, les consommations électriques, parce que quand j'avais eu j'ai eu plusieurs iMac quand je travaillais avant en tant que rédactrice, et c'était quand même les iMac 27 Intel, c'était quand même 100 watts à l'heure.
Oui.
Donc c'était quand même gourmand en électricité. Et là, donc je me suis amusée à regarder les notices techniques. Donc si on additionne un Mac Studio et un Studio Display, donc on arrive à peu près 41 watts à l'heure. Donc deux fois moins qu'un iMac 27 pouces Intel pour la même taille d'écran et certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de puissance. Et pour comparer, le Mac Mini, par exemple, alors sans l'écran, bien sûr, il est à 6,5 watts à l'heure. Le Mac Pro, toujours sous Intel, lui, il est à 100 watts heure. Et l'iMac M1 24 pouces, il est à 22,5 watts heure. Donc, ça prouve bien ce que disait Guillaume, à savoir que les puces Apple Silicone sont vraiment peu gourmande en énergie. Et donc, ça explique l'autonomie incroyable des portables. Et on l'aperçoit aussi sur la consommation électrique des machines de bureau. Donc, c'est une bonne nouvelle.
Oui, ça, dans ces moments où on commence à faire attention à notre consommation, bon, en tout cas, on commence, où il faut faire attention à notre consommation, c'est bienvenu. Ça, je l'avais complètement échappé. Je regarde les notes d'émission et qui, je rappelle, ont été faites uniquement par Audrey. Je regarde les notes de l'émission et j'avais complètement zappé que la Magic Mouse, que le Magic Trackpad et que le Magic Keyboard arrivaient enfin en noir.
Ouais, pour 20 euros de plus, parce qu'il n'y a pas de petit profit chez Apple, le noir ça coûte plus cher, c'est bien connu.
Ouais, c'est cher les feutres noirs.
C'est cher les feutres noirs, ouais. C'est toujours été comme ça, de toute façon, c'est un classique chez Apple. Par rapport à la consommation des Mac, en fait, juste dans les, je pense qu'il faudrait peut-être faire une consommation, quelque chose de plus juste encore en comparaison, c'est la comparaison avec l'iMac Pro de 2017. Voilà. Et en fait, je regarde entre la consommation d'énergie, sans rien faire sur l'iMac Pro, hein, donc idle, c'est 64 watts et ça monte à 370 watts à fond. Donc ça donne un peu un ordre d'idée à la consommation électrique de ce type de machine et ouais, ça peut être très 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 élevé.
Ouais, puis ça commence à vraiment rentrer en considération dans les étiquettes des produits, les notes, hein, comme les voitures, ouais. comme tout ce qu'on achète, l'ordinateur qui reste allumé. 10 heures par jour, ben forcément, ça a un impact sur la facture. Donc, ben, c'est cool qu'on ait des puces Apple Silicon.
Oui, c'est très bien.
Et dites-moi, vous qui êtes dans un pays où on parle d'une cote de réparabilité, ça se situe où? Avez-vous l'information pour le display, que ce soit pour l'écran ou pour le Mac Studio? Ça se situe où? Est-ce que vous avez déjà la cote ou c'est pas encore sorti?
Moi, j'ai pas vu. J'ai vu ça que sur les iPhone et iPad pour l'instant.
Okay.
Pas sur les Mac, donc mais bon, je me trompe peut-être, je sais pas.
Alors j'ai pas vu sur ces Macs là, effectivement j'ai vu que sur les iPhones, après sur les Macs, bon c'est pas des machines qu'on répare souvent, donc c'est peut-être pas forcément. Je sais pas, pas fait gaffe honnêtement.
Bon, très bien.
Pour moi, ça touche pas les ordinateurs, mais je peux me tromper.
Ah, peut-être aussi, c'est peut-être juste les appareils mobiles.
Peut-être,
vous le direz dans les notes de l'émission, n'hésitez pas à nous tweeter
ça
aussi.
Ah si, non, j'ai dit n'importe quoi, les notes de réparabilité sont sur le site d'Apple, quand tu vas pour commander une machine, tu as la note. Typiquement, MacBook Air est à 6 sur 10, je vais regarder un peu rapidement pour les autres machines, l'iMac est à combien? Hop, c'est pas indiqué pour l'iMac, a priori. J'ai pas la réponse. Ouais, a priori 6 sur 10 par exemple pour un MacBook Air. Et est-ce que c'est indiqué pour les Macs plus récents? J'ai pas l'impression.
Pas grave, on va faire une transition. Ouais. Audrey, tu as posé une question avec le compte Apple différemment sur Twitter. Je vais te laisser expliquer ce que tu as demandé.
Ouais, j'ai proposé à ceux qui nous suivent sur @AppleDiff sur Twitter s'ils avaient des questions à nous poser auxquelles on pourrait répondre pendant cet enregistrement. Donc il y a Axel @Billager qui nous demande pourquoi choisir un iPhone SE3 plutôt qu'un iPhone 12 mini.
Au niveau du prix d'ailleurs, en partant, moi j'irais naïvement avec le prix.
Bah après,
ouais, pour moi c'est pas la même cible en fait. Enfin, je sais pas, c'est pas trop comparable, mais.
Bah je connais pas les tailles d'iPhone, les tailles d'écran maintenant ne veut plus rien dire pour moi, donc je sais pas.
Bah, les 12 mini c'est la même taille à peu près que le SE3, sauf qu'il a tout l'écran, enfin l'écran est sur toute la taille de l'appareil. Ouais, déjà le prix n'est pas le même, parce que le 12 mini on va le trouver, il est encore vendu sur le site d'Apple, mais il est forcément plus cher que le SE3.
Mais après, le mini, c'est, par contre, le 12 mini, c'est Face ID. Donc, si vous préférez Face ID, effectivement, c'est plus intéressant à ce niveau-là. Clairement. Déjà.
Je pense que c'est plus une question d'envie qu'une question d'écart de budget. C'est juste, on veut Face ID ou Touch ID. Enfin.
Ouais. Effectivement. Rendu maintenant, en tous les cas, chez nous, il y a une bonne différence de prix entre le mini puis le SE2. Le SE3, fait que je dirais a priori le prix. Et puis comme on disait tantôt, je pense que le SE3, c'est vraiment typiquement le téléphone qu'une personne va avoir ou qu'une flotte de téléphones peut-être pour les compagnies, on va avoir parce que peut-être vont coûter moins cher en masse et puis aussi assurément plus facilement réparable peut-être aussi.
Bon, après, sur l'iPhone 12, bon, quand tu regardes la différence, c'est un écran OLED et pas LCD, c'est un double appareil photo avec ultra grand angle. La puce est moins bonne, mais tu as la 5G quand même, meilleure lecture vidéo, Face ID d'un côté, Touch ID de l'autre, donc c'est vraiment... Après, ça, voilà, le tarif est quand même plus élevé, clairement plus élevé, hein, t'as 170€ de différence pour l'iPhone 12. Donc là, il faut... Mais après, si tu veux un violet, t'as que l'iPhone 12 en violet, donc bon, c'est à voir.
C'est ouvert, voilà. Ouvert, kaki.
C'est... Ouais. Alors après il y a Jumonch qui nous demande pourquoi mettre les puces M1 dans les iPads, quel est le but au final?
Moi je pense que c'est une question de rentabiliser des processeurs, mais
c'est tout
hein.
Ouais, c'est rentabiliser le processeur, c'est vaut mieux faire des processeurs, t'as les moyens de le faire et d'avoir des appareils puissants. Je pense que le gros problème aujourd'hui, surtout pour l'iPad, c'est que ben ils ont un processeur super puissant, mais l'OS n'en tire pas parti. Peut-être qu'à un moment Apple va vraiment se motiver pour vraiment avoir un OS qui tire parti de la puissance des puces, et là on verra ce que ça donne. Mais clairement, après, s'ils peuvent le faire, pourquoi ils le feraient pas?
Oui, puis c'est une évolution. Pour moi, les puces M quelque chose vont remplacer toutes les puces A 13, A 14, A 15 à l'avenir. C'est une évolution normale.
Ça va peut-être être difficile parce que je pense qu'en termes de taille, après, tu t'as pas. C'est un peu plus gros quand même, donc ce sera difficile. Il y a quand même deux usages différents, mais typiquement sur l'iPad, t'es quand même sur une surface assez grande, donc la dissipation thermique est plus jouable et plus facile à gérer que sur un petit appareil. Donc ils peuvent se permettre de le faire, donc s'ils peuvent le faire et qu'effectivement ça leur donne un gain de puissance et que pour eux en termes de coût ça fait pas beaucoup de différence, autant le faire.
Après, je me demande si on met un M1 Ultra à côté d'un iPhone 13 mini, s'il dépasse pas le iPhone 13 mini en termes de superficie.
Ouais, mais tu sais que tout réduit avec le temps, tout devient plus petit, alors
c'est ça.
Alors, il y a Daniel qui nous demande quelle est l'alimentation fournie avec l'Apple Display, donc le Studio Display, je pense qu'il voulait dire. Rien de précis là-dessus. Alors, j'ai un peu cherché. Je pense que l'alimentation est intégrée à l'écran,
comme pour le
Mac Mini. Ou est-ce qu'il parlait de consommation électrique? Donc, on y a répondu. Parce que dans les infos du qu'est-ce qu'il y a dans le colis, dans le package, il y a l'écran, il y a la prise électrique et il y a un câble USB-C Thunderbolt. Donc en fait, on n'a pas d'autres infos là-dessus. Enfin, moi, j'en ai pas trouvé d'autres.
Bon, on va voir les prochains jours quand il arrivera chez les gens.
Effectivement.
Marcos nous demande que pensez-vous du nom Studio.
Je vais regarder les photos. A priori, connecteur d'alimentation a l'air assez. J'arrive pas à voir si c'est un connecteur standard en fait sur l'arrière de l'écran. Il y a un bloc noir, mais je sais pas. Je sais pas quel type de câble qui est utilisé en fait. Si, de toute façon, c'est un câble Thunderbolt en fait qui est livré. Donc en fait, c'est juste un connecteur Thunderbolt.
Il y a les deux. Non, t'as le câble d'alimentation vraiment prise électrique et t'as un câble Thunderbolt.
Oui, de toute façon, oui, ça, il peut pas fonctionner avec du Thunderbolt, je crois. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'il n'y a pas de truc indiqué particulièrement. Bon, à voir.
Alors, Marcos nous demande, que pensez-vous du nom Studio? Alors, lui, il a plusieurs questions. Que pensez-vous du nom Studio? Donc, on en a parlé tout à l'heure. C'est un très beau nom. Pour les créatifs.
Ça définit plus les créatifs, je trouve, que dire pro ou pas pro.
C'est mieux.
C'est ça.
Je trouve que c'est un bon nom, moi, perso.
Pourquoi Apple a-t-elle gardé le Mac Mini Intel à son catalogue?
C'est une bonne question à Guillaume, ça, au niveau de tes clients. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui veulent du Intel?
C'est rare. La plupart du temps, quand même, on n'a pas su sur du Mac Mini, on se pose plus trop de questions. D'ailleurs, il n'y a plus l'iMac Intel, il est sorti de la gamme. Mais c'est vrai qu'il reste toujours ce mystérieux Core i5 Exacœur à 3 GHz, avec 512 Go de stockage à 1 200€.
Il y a
plein de stock, je sais pas. il peut y avoir des applications métiers qui peuvent avoir besoin de fonctionnalités qui tournent typiquement applications serveurs, je pense à des serveurs de base de données, des choses comme ça. Il pourrait peut-être exiger encore des processeurs Intel. Et dans ce cas-là, ça permet quand même d'avoir encore une machine dans la gamme qui a l'avantage d'être modulaire. Donc derrière, on s'en fout, on peut mettre n'importe quel écran, ça marchera. Je pense que ce sont des usages très, 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 très spécifiques. Une machine virtuelle qui tourne sous Windows, qui tournerait que sur un processeur Intel, aujourd'hui, ça marche pas. Enfin, ça marche pas officiellement sur les processeurs M1, enfin, Apple Silicon. Donc du coup, ça peut avoir un intérêt dans ce cas-là. Mais ça reste quand même des usages très marginaux.
Il nous demande aussi, il n'y a aucune machine de bureau équipée d'un M1 Pro et M1 Max sur le site d'Apple, pourquoi?
Parce que Apple.
Bah ouais. Voilà. Alors, on va attendre la mise à jour de l'iMac.
Non, t'as, bah, comment ça, il y a pas bah, le, t'as le, si t'as le Mac Mini, le Mac Studio, la version de base, elle est en M1 Pro.
M1 Max.
Ouais. Bah donc oui, oui, pardon,
M1 Pro. Ouais.
Bah t'as pas de M1 Pro, oui, bah tu prends M1 Max et puis voilà, c'est tout. T'as pas. Après, si tu veux, encore une fois, c'est l'usage. Alors c'est vrai qu'Apple pourrait faire un M1 Max, mais après je pense que le problème c'est toujours couvrir tous les territoires et pour Apple, à un moment, c'est plus facile de se dire, ok, en termes de production, on préfère balancer des machines en M1 Pro à un prix supérieur et les gens feront l'effort pour les mettre les 500 euros qu'il faut pour avoir un M1 Pro. Plutôt que vouloir absolument avoir une machine avec un M1 Max dedans et que... avoir une machine avec un M1 Max, plutôt que se dire, voilà, on fait une machine avec un M1 Pro et que ce soit plus compliqué à eux, pour eux en termes, à gérer en termes de gamme, en termes de segmentation. À un moment, ils préfèrent se dire, je pense, ok, on a bien couvert une certaine base. Après, il y a un petit gap, effectivement, il y a un petit écart avec la machine suivante qui coûtera un peu plus cher. Mais si vraiment c'est votre besoin, bah tant pis, vous mettrez l'argent et vous passerez dessus, puis voilà quoi.
Je commence quand même à être assez mélangé dans les gammes M1 Max et M1
Ultra. Oui, bah oui, forcément.
Ultra. On a
ouais, mais studio, c'est le problème, après c'est... Ouais, mais après c'est toujours la même chose, mais va chez Intel, hein. si t'es pas content, va regarder les gammes Intel, tu vas pleurer. Forcément, parce que Apple couvre beaucoup de besoins, donc du coup, bah ils ont une gamme de processeurs qui correspond à ces besoins. Du M1 de base pour l'entrée de gamme jusqu'au Ultra, bah, ils ont 4 gammes et je trouve ça bien. En fait, ça couvre une base très large, donc c'est bien.
Oui. Donc, les deux autres questions, mais on y a répondu tout à l'heure, à savoir pourquoi le SE a pris 40 euros. Alors, on n'est pas non plus dans les petits papiers d'Apple. Hein. Nous, on vous donne un avis de passionné comme ça, mais, ou de professionnel avec Guillaume, mais on n'est pas non plus dans le secret d'Apple, donc on ne sait pas. Après, forcément, tout augmente un petit peu en ce moment, donc ouais. Voilà. Moi, j'avais une réflexion par rapport aux mises à jour, parce qu'on me l'a posé du coup le week-end dernier. Est-ce qu'un Mac Studio qu'on va payer 2000, 3000, 4000 euros, est-ce qu'on aura plus de mises à jour ou des mises à jour plus longues de macOS que sur un Mac, on va dire, de la gamme grand public?
On sait pas. Là-dessus, je pense qu'il n'y aura pas de différenciation. Pour Apple, c'est la même chose. Mais après, attention, on parle des machines qui, normalement, effectivement, auront 7-8 ans d'existence. On sait pas ce qu'il en sera dans 7-8 ans. Je veux dire, c'est très difficile. Si pour vous, l'objectif, c'est de dire qu'est-ce qu'il en sera dans 7 ans, pour moi, c'est pas compliqué. De toute façon, un ordinateur, au niveau comptable, pour une entreprise, et là, on parle d'ordinateur d'entreprise, il est, au bout de 3 ans, il sort de la comptabilité, de toute façon. Donc après, c'est un amortissement. Enfin, voilà, il y a un calcul d'amortissement, il y a des choses à faire. Qui font que ta machine, normalement, elle te coûte sur les 3 premières années d'existence, et puis voilà. Pour moi, ce sont des machines qui sont, de toute façon, taillées pour 6-7 ans, comme d'hab chez Apple, en fait. Pas plus, pas moins, voilà. Je serais plus embêté si je devais acheter un Mac Intel aujourd'hui, parce que le Mac Intel aujourd'hui, je suis pas sûr qu'Apple fournisse des mises à jour de macOS pendant plus de 2 ou 3 ans.
Ah ouais, ok. T'es pas plus que 2 ou 3 ans.
Alors, même pour information, à l'époque, lorsqu'Apple a annoncé le passage sur Intel, ils avaient sorti juste à ce moment-là les Power Mac G5, les quad-core, je crois à l'époque, ceux qui étaient refroidis sous Halo et qui étaient tellement refroidis qu'à la fin, ils s'enfuient des côtés. ils sont sortis en 2005, et la dernière version macOS compatible, je crois que c'était la 10.5, et la 10.6 qui est sortie en 2009 était plus compatible. Donc c'était, grosso modo, ils sont sortis fin 2005, 2009 c'était mort, quoi. 2008 ou 2009, hein, tu vois, donc c'est pas jojo.
Ouais, je me faisais la réflexion parce que le fameux Mac Pro de fin 2013, qui était le Mac Pro en forme d'urne, là, noir, là, il peut, donc il est sorti fin 2013, il peut encore faire tourner la dernière version de macOS, donc macOS Monterey. Ça va quand même, dans un an, ça fera 10 ans, donc c'est assez énorme.
Ouais.
Du coup, je suppose que les Mac Studio et peut-être tout le Studio Display auront des mises à jour pendant 10 ans, quoi.
Ouais, sauf que moi, tu vois... Mais oui, sur ces machines-là, oui, la question se pose pas, parce que on arrive en début d'architecture, donc il n'y aura pas de problème. Tu achètes un Mac Studio aujourd'hui, dans 7 ans, tu pourras encore l'utiliser, je pense, avec le dernier OS sorti. Mais par contre, les gens qui ont acheté un Mac Pro 2019, donc le gros Mac Pro 2019 aujourd'hui... Je pense que si tu veux, Apple va faire des efforts sur la prochaine version de macOS, la version suivante peut-être. Au-delà, je suis pas sûr. Parce qu'à partir du moment où leur parc, si tu veux, par rapport à la vitesse à laquelle. Et en fait, on s'en rend pas compte, hein, mais typiquement, l'adoption dans les entreprises des Mac M1, elle est très 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 rapide en fait. Hein. L'adoption elle se fait très vite et il n'y a vraiment pas de difficulté pour Apple à pousser ses machines en entreprise. Donc, je ne pense pas qu'Apple va se prendre la tête pendant très longtemps sur des machines qui sont d'ancienne gamme pour se dire ok, c'est bon, maintenant on vous a montré ce qu'on pouvait faire. Vous voulez vraiment une nouvelle machine, vous voulez vraiment une nouvelle OS, bah ce sera avec une nouvelle machine et puis basta, ou avec un, enfin, ce sera avec un processeur Apple Silicon. Je n'imagine pas Apple faire des mises à jour de macOS pour les machines Intel pendant encore plus de deux ans. Parce que ça coûte très cher. Ça coûte très cher en termes d'ingénieurs, en termes de support, en termes de suivi. C'est très compliqué de faire ce genre de suivi-là. Donc, pour des OS, regarde Microsoft, hein, il essaie de faire de gérer de l'architecture Intel et de la gérer à côté de l'architecture AMD. Enfin, pas AMD, qu'est-ce que je dis, l'architecture ARM. Ils ont beaucoup de mal. Ils ont énormément de mal. Apple a toujours su plutôt très bien le gérer, mais je pense pas qu'ils s'embarrasseront vraiment de beaucoup d'état d'âme en se disant non, il faut vraiment qu'on conserve pendant 5 ans la durée de vie, enfin l'OS version Intel. Non, à mon avis, je te dis franchement, Monterey, on est encore supporte encore aujourd'hui les Intel. La prochaine version de macOS supportera l'Intel. Dans un an, peut-être encore, mais pour moi, 2024, c'est fini. Hein. Tu n'as plus aucun support Intel, de Mac Intel au niveau de l'OS. Ça, c'est certain.
Ouais, c'est logique, parce que ce qui est le nœud de la guerre en ce moment, pour les compagnies de la Silicon Valley, compagnies tech en général, c'est d'avoir des ressources, des développeurs. Et puis d'avoir des développeurs pour soutenir un OS que de toute façon... En fait, un processeur que tu sais que de toute façon va mourir... À un moment donné, c'est une question de rationaliser les efforts.
C'est pas qu'il va mourir, mais voilà, est-ce que c'est vraiment pertinent alors que ton but aussi, c'est de vendre du hardware?
Ouais.
C'est surtout ça, en fait. C'est Apple vend du hardware. Alors, ils ont un suivi dans le temps, ils vont conserver, mais je pense qu'au bout d'un moment, ils vont dire, bon, allez, c'est bon, merci. Regardez le taux d'adoption de l'Apple Silicon, c'est bon, on arrête. C'est tout. C'est si bête que ça.
Excellent. Bon, ben, merci pour toute cette analyse très, très, très bien structurée, intelligente. Merci, Guillaume, pour tout ça. On est vers la fin de l'émission où on partage un peu une pensée, une réflexion. Guillaume, tu as une réflexion de Schopenhauer, toi.
Ouais, Schopenhauer qui un jour avait dit « Réflexion faite, je reprendrai bien du poulet.
» C'était la réflexion de Guillaume
Jette. Non, c'est pas celle-là, mais c'était une réflexion. C'était les nuls qui avaient sorti ça. Ça m'a toujours fait rire quand on parle de réflexion. Et voilà, donc c'est... une phrase de Steve Jobs sur laquelle je suis tombé il y a pas longtemps et qui résonne pas mal, en fait. C'est « On ne paye pas des gens intelligents pour qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, mais nous payons des gens intelligents pour qu'ils nous disent ce qu'on doit faire. » Et voilà, moi qui travaille dans le conseil, des fois, je me dis « C'est bien parce qu'effectivement, les gens me payent pour que je leur donne des conseils et ils les suivent pas forcément parce qu'ils ont leurs idées des fois très arrêtées sur des sujets qui, pourtant, on est censé... Voilà, on est professionnel et on sait normalement de quoi on parle. Donc voilà, pensez que si un jour, vous devez embaucher des consultants, si vous devez embaucher des personnes, c'est quand même aussi pour qu'elles vous suggèrent des choses et parfois, c'est bien de les écouter. »
Ah, on sent du vécu dans cette phrase-là.
Oh là, t'as pas idée. Heureusement, pas pour tous mes clients, et il y en a plein que je remercie parce qu'ils m'écoutent et on avance bien ensemble, et c'est super cool.
C'est ça, quand on pose la question, faut aussi vouloir écouter la réponse.
C'est un peu ça, mais tu sais que c'est difficile, hein, parfois, tu te dis, tu expliques, voilà, l'informatique change. En fait, surtout, petit aparté, voilà, c'est sur le sujet sécurité, pour lequel, quand on parle de sécurité en entreprise, quand tu travailles des gens qui sont dans des petites entreprises, ils disent, oh, il n'y a pas de souci, on n'est pas ciblé, etc. Alors que si, ils sont ciblés, parce que souvent, ce sont des cibles faciles, et que le Mac, les produits Apple sont sécurisés, mais il y a quand même des limites, que le facteur humain aussi, il est important, et voilà, et donc, parfois, il y a des combats qui sont durs à mener, même avec ses propres clients.
Écoute, un petit aparté, je suis en informatique depuis 25 ans, je mène des projets, développement et ainsi de suite. Et en 25 ans, ce qui a beaucoup évolué, c'est l'approche au niveau des clients, pas forcément sur ce qu'on développe. Oui, effectivement, ça, un site web ou une application mobile d'il y a 10 ans, c'est pas de la même manière qu'on la fait maintenant. Mais là où on met de plus en plus d'efforts, c'est pour être accompagné de gens en gestion du changement, pour qu'ils adhèrent ou pour qu'on comprenne plus. Bref, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on travaille de plus en plus l'humain dans la tech en termes de services conseils. Et oui, effectivement, on est souvent confronté là-dessus. Et des fois, un bon piratage, ça fait du bien et ça ramène les esprits.
Parfois, c'est souvent la seule solution, c'est ça. Pour moi, pour beaucoup de personnes, c'est effectivement ça, c'est se dire tant que t'as pas été confronté au problème, tu penses que t'as pas de soucis, puis une fois que tu as été confronté, voilà.
Et des fois, le changement, ça vient avec une bonne crise.
C'est ça.
Audrey, as-tu une pensée, une réflexion pour le mois?
Ben moi, je vais faire comme Guillaume, je vais citer Steve Jobs, qui a dit quand même vachement de trucs intelligents. Et notamment, quelque chose que je n'oublie jamais, c'est « Ce que tu décides de ne pas faire est tout aussi important que ce que tu décides de faire. »
Tout à fait.
Et moi, plusieurs fois, ça m'a servi dans mes choix de vie, dans... Voilà, décider de ne pas faire quelque chose, c'est parfois plus gratifiant que de faire telle ou telle chose. Donc, cette citation, elle est bien, surtout quand on bosse à son compte et quand on doit prendre des décisions qui nous font un peu mal au cœur parfois, mais qui vont un peu nous sauver la mise. Donc, ce que tu décides de ne pas faire est tout aussi important que ce que tu décides de faire.
Ah bah après, c'est pour ça, ouais, c'est ce qu'il disait, effectivement. Ils étaient très fiers de ce qu'ils avaient fait, mais ils étaient encore plus fiers de ce qu'ils n'avaient pas fait, effectivement. Et ouais, des fois, se dire qu'on n'a pas fait certaines choses et que finalement, c'est bien fait de ne pas les avoir sortis, c'est bien aussi.
Écoute, je ne saurais que te conseiller d'écouter, et là, je vais vous parler d'une plateforme qui n'est pas Apple, Audible, la plateforme d'Amazon concernant les livres, où tu retrouveras un livre qui vient de deux créateurs qui ont créé The Minimalist, Joshua Field et Ryan Milburn, Nicodemus en fait, Ryan Nicodemus, qui ont parti à un mouvement minimaliste, mais qui était là depuis longtemps avec les Haut-Babotas et ainsi de suite. Et on pense souvent que le minimaliste, c'est quelqu'un qui met juste un t-shirt, des jeans et qui met pas de chaussettes. Mais non. Quand tu apprends un peu plus sur le minimalisme, tu te rends compte que c'est de faire des bons choix, choix de carrière. Et quand on dit des choix, c'est des fois de ne pas choisir. Alors, c'est totalement en phase avec ça. Alors, je te conseillerais de Minimalist, qui est sur la plateforme Audible. Et pourquoi je vous parle d'Audible? Parce que j'ai découvert cette semaine qu'il y avait Audible Plus. Et je savais pas que ça existait, Audible Plus. Et je trouve que c'est ultra cohérent d'avoir la possibilité d'écouter des livres audio en illimité. Alors, ce que c'est Audible, c'est une plateforme pour écouter des livres audio. Mais maintenant, dans la plateforme d'abonnement, avant, tu avais des crédits. Hein, tu t'abonnais mensuellement à Audible, tu avais des crédits pour des livres. Maintenant, ben, tu as des crédits pour des livres, mais en plus, tu as accès à Audible Plus. On est tous dans le Plus, Fitness Plus, TV Plus. Bon, ben, eux autres, c'est Audible Plus. Et ça vous permet d'avoir des livres en illimité, ce qui est super intéressant parce que ça arrive souvent qu'il y a un livre qui vous intéresserait en format audio, vous voudriez le commencer, l'écouter, mais que finalement il est peut-être pas bon, le retourner ça devient compliqué quand vous achetez sur des plateformes comme Apple. Ben avec Audible Plus, vous pouvez consommer une grande catégorie de livres audio sans forcément avoir à les acheter. Alors l'abonnement commence à avoir une certaine cohérence et je suis impatient que Apple offre le même service. Alors bon, Guillaume, j'en ai parlé pendant toute l'émission, j'en ai fait allusion très très souvent, on va parler de toi. Pour te rejoindre, on te rejoint où? Et plus précisément, peut-être t'accompagner aussi, peut-être parle-nous-en.
Alors, vous pouvez m'accompagner dans mon lit, mais seulement si vous êtes très intime. Et vraiment, je partage mon lit avec très peu de personnes. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, GGETE, GGETE, et évidemment sur mon blog, blog.get.net, où parfois j'écris des trucs intelligents, mais pas assez. Je t'ai fait le challenge de faire un article par jour depuis le début de l'année, et ben c'est complètement foiré, je tiens à le signaler.
Par jour?
Par jour, pardon.
C'est beaucoup.
Ouais, oui, j'avais dit, je vais essayer de faire un article par jour, même petit billet, j'ai même pas réussi à en faire 5 depuis le début de l'année, donc c'est dramatique. Peut-être que ça reviendra un jour, voilà. Et sinon, vous pouvez me contacter à titre professionnel sur www.get.net/consulting, qui est le page pro.
Voilà. Et pour te motiver, je te conseillerais de suivre Audrey Coulot, qui n'arrête pas de produire.
Oh, c'est catastrophique. C'est terrible.
On se sent... Est-ce que tu te rappelles Wayne's World où quand il voit un grand guitariste de renom, là, il se jette à terre, il s'accroupit, puis il fait...
On est tout petit, on est tâche. Voilà, voilà, ouais, tout à fait, bien sûr.
Alors Audrey, où est-ce qu'on peut te rejoindre et voir la profusion de contenu que tu crées?
Bah écoute, j'estime ne pas être assez organisée, mais en fait, c'est vrai que quand je vois ce que j'abats comme boulot, je me dis c'est qu'il y a quand même un peu d'organisation dans tout ça, donc ça me rassure. Mais vous êtes trop gentil.
Ah, Audrey, elle ne succombe pas au syndrome de l'imposteur, on y est tous. ce syndrome, et il ne faut pas, vraiment, il ne faut pas.
Ouais, mais attends, les gens qui qui s'auto-flattent aussi, c'est détestable. Donc, faut trouver un juste milieu entre le syndrome de l'imposteur et la grosse tête.
C'est pas évident.
Bon, c'est pas évident. Alors, vous pouvez me joindre sur Twitter, @AudreyCoulot, bien sûr, et sur mon site formationapple.fr.
Excellent. Et n'oubliez pas, dans mon cas, d'aller profduweb.com si vous voulez voir tous les endroits où je sévis sur Internet ou profduweb sur Twitter. N'oubliez surtout pas d'aller mettre un 5 étoiles sur iTunes. Ça nous fait toujours plaisir. C'est notre plateforme de prédilection. N'oubliez pas aussi, si vous avez des questions, des commentaires, des messages, vous pouvez le faire aussi sur les médias sociaux, c'est sûr. Mais on aime bien un petit message vocal. Vous allez dans les notes de l'émission, vous avez un bouton pour aller directement nous laisser un message vocal de 1 minute. Et on le diffusera si ça fait beaucoup de sens et n'hésitez pas à nous poser des questions. Bref, on vous remercie, on vous dit au mois prochain, au mois d'avril, on vous dit un bon mois et on vous souhaite des achats intelligents si vous avez envie de procéder à ce genre d'achat dont on vous a parlé pendant l'émission. Allez, ciao, ciao.
Et merci Guillaume d'avoir été avec nous, c'était cool.
My pleasure, mon plaisir comme on dit.
Alors, on va poinçonner ta carte fidélité. On est rendu à 4. La prochaine fois, ça va être 5. Ouais.
Voilà.
Merci, Guillaume.
On va réfléchir à ton cadeau bonus.
Ça marche. Ciao.
Ciao, ciao.
Salut.